On se retrouve au lendemain de l'investiture dans un lieu un peu secret de la capitale américaine. Quelques grandes voix de Washington y passent régulièrement. On y sert un café serré. D'ailleurs, vous entendez peut-être la cafetière italienne chanter derrière moi. Nous sommes, non, pas au café Milano, près de chez toi, Grégory, où on croise tout le gratin du monde politique, mais dans ma cuisine.
J'ai amené des viennoiseries de la boulangerie française, justement, qui est à côté de chez moi. Servez-vous.
Il faut que tu nous dises quelque chose sur ton frigo, qui est complètement couvert de... C'est quoi? T'as mis des...
Ah, c'est ma collection de magnets. Mon objectif, c'est d'en avoir un de chaque État américain.
T'as déjà 232 États, non?
Et puis pour être un peu plus sérieux, sur la table, évidemment, on a les unes de journaux qui marquent la journée historique à laquelle on a assisté cette semaine, la transition du pouvoir et l'arrivée en place de Joe Biden dans la Maison-Blanche.
Pourquoi est-ce qu'on fait ça chez toi?
Ben, il faut dire que le centre-ville est complètement bouclé. Ajoutons qu'on est tous un peu fatigués et qu'on vient d'enregistrer ici une émission pour RFI. Vous entendez peut-être Julien, le technicien, qui va commencer à démonter le studio dans la pièce d'à côté. On va d'ailleurs se déplacer dans le jardin afin de respecter au mieux les normes sanitaires. Bien sûr, on va revenir sur les cérémonies d'investiture complètement hors normes en raison de la pandémie et des menaces qui pesaient sur l'événement. On va aussi évoquer les premiers pas de Joe Biden et Kamala Harris en tant que président et vice-présidente et tâcher de répondre aux deux questions qui taraudent le pays. Joe Biden parviendra-t-il à unifier l'Amérique comme il le promet ? Que va devenir Donald Trump? Au fait, les amis, franchement, vous n'allez pas le regretter un petit peu, notre bouillant président?
Ça fait déjà bizarre d'avoir des premières pages du New York Times et du Washington Post sans Trump. Hein. Là, on a le nouveau couple présidentiel avec ce mot écrit en grand « Unity ». Je ne crois pas qu'il y a du Trump sur la première page et ça, c'est très rare, il faut quand même le signaler.
Il faudra s'habituer à ne plus donc voir de messages sur Twitter à toute heure du jour ou de la nuit. Par contre, ce qui deviendra une nouvelle réalité, c'est un point de presse quotidien de la Maison-Blanche. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu quand même.
Et vous avez vu évidemment que dans les boutiques de souvenirs à Washington, les magnets Trump justement sont en promotion, hein, genre moins 50%.
Alors avec moi pour parler de ces journées historiques, il y a...
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada.
Grégory Philips de France Info et je veux bien un café.
Raphaël Grand de la Radio-Télévision Suisse, passe-moi un croissant s'il te plaît.
Et Anne Corpet de RFI, Sonia Adridi de la RTBF qui habite un peu loin et qui a des impératifs antenne, n'a pas pu nous rejoindre mais elle va se connecter d'ici un instant pour être avec nous. Trump, Biden, chasse et croisé à la Maison-Blanche, c'est le titre de ce numéro 33 du podcast du balado Washington D.C.
Il est prêt le café, Anne, hein, je peux prendre.
J'en veux aussi, moi. Grand café, petit café.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help me God.
Washington D.C.
Congratulations, Mr. President.
Nous voilà réunis dans le jardin, on respire enfin un grand coup, hein. Ça fait du bien après avoir arpenté pendant une semaine les rues d'une capitale quasiment assiégée. On va tout de suite rejoindre Sonia pour qu'elle puisse aussi en profiter. Allô Sonia, t'es avec nous ?
Oui, je vous entends très bien.
Bon, alors même si on n'a pas beaucoup dormi, ça repose, hein, ces arbres, les oiseaux, les écureuils. Après les véhicules blindés, les soldats en uniforme, armes à l'épaule, les grillages, les chicanes en béton. J'ai parfois eu l'impression d'être sur le tournage d'un film ou d'une série dystopique. C'est aussi ce que m'ont dit plusieurs habitants de la capitale fédérale, hein, ces allures de camps retranchés. Cela ne ressemble pas à l'Amérique, surtout qu'habituellement, les cérémonies d'investiture, c'est une fête. Un grand rassemblement populaire.
Oui, normalement, où des centaines de milliers d'Américains rejoignent Washington pour célébrer le nouveau président. Et à la place, là, il y avait 25 000 réservistes de la garde nationale. Moi, je les ai vus notamment dormir sur le marbre du Capitole. C'est quand même totalement sidérant comme scène. Et j'en ai parlé avec le représentant de Californie, Eric Swalwell, qui était vraiment attristé de voir cette capitale quasiment en état de siège.
You know, when I was a kid, my dad would always tell me at every inauguration, you know, look at this scene. You don't see a single tank here. You don't hear a shot fired.
Et ce représentant démocrate dit, quand j'étais gamin, à chaque investiture, mon père me disait, regarde bien ça, on ne voit pas un seul tank, il n'y a pas un seul coup de feu. C'est ce qui rend ce pays si spécial.
We've had violence. It's not a peaceful transition of power.
Et là, c'est la violence. Ce n'est pas une transition pacifique du pouvoir.
Et c'est vrai que quand Joe Biden est sorti de la Beast, hein, la voiture blindée, et qu'il a marché sur l'avenue Pennsylvanie, il a essayé d'aller voir des gens, d'aller serrer des mains, dire bonjour. Finalement, il a trouvé personne, si ce n'est la maire de Washington DC, Muriel Bowser, qui était un peu la seule au milieu de ses troupes, de ses soldats de la garde nationale.
Et vous avez aussi constaté hier, en regardant la cérémonie, que les gens qui étaient là étaient masqués. Un rappel qu'on est toujours en pleine pandémie aussi aux États-Unis. Donc ce décor qu'on a vu au cours de la dernière semaine dans la capitale, présence militaire, public réduit, eh bien, selon Robert Malley, qui est président du International Crisis Group, qui connaît bien les investitures, les assermentations, parce que lui-même a été conseiller d'Obama et de Clinton, selon lui, ça représente un peu l'état dans lequel se trouve le pays dont hérite Joe Biden.
C'est un symptôme, tout un symbole de l'état du pays. Je pense que quelqu'un a dit, j'ai pas fait le compte, qu'il y avait plus de membres des forces de sécurité armées au Capitole qu'il n'y avait de forces américaines en Afghanistan et en Irak. Mais c'est vous dire, évidemment, l'état d'anxiété, l'état de tension, de fébrilité. Dans le centre-ville, les accès, les routes sont bloquées. Les troupes de la garde nationale dorment dans le siège de symbole de la démocratie américaine. C'est tout un symbole.
Bon, malgré ce contexte un peu glaçant, il y a quand même eu de beaux moments pendant cette cérémonie.
Ah ben oui, moi je retiens surtout les, vous savez, les moufles.
Les mitaines.
Ouais, les gants là en laine, avec ces petits losanges tricotés dans le Vermont du sénateur Bernie Sanders. Tu pensais à ça, évidemment.
Pas vraiment. Y a, d'autres personnes avaient des looks un peu plus recherchés, on va dire.
En tout cas, l'image de Sanders assis et frigorifié avec ses gants est devenue un mème sur Internet.
Et en parlant de look, il y avait aussi, évidemment, Lady Gaga qui a chanté l'hymne national. Lady Gaga qui est arrivée dans une robe rouge très ample, Covid compatible presque, on pouvait pas s'approcher d'elle à moins de 2-3 mètres j'imagine. Donc elle a chanté l'hymne national, une colombe dorée accrochée sur la poitrine, symbole de paix.
Et il y a aussi eu la poésie déclamée par la jeune Amanda Gorman, une jeune afro-américaine qui a scandé ses rimes avec une diction spectaculaire. On devrait tous s'en inspirer les amis.
We, the successors of a country and a time, were a skinny black girl.
Elle s'est notamment décrite comme une fille noire maigre, descendante d'esclaves.
We are striving to forge our union with purpose, to compose a country committed to all cultures, colors, characters and conditions of man.
Ça a été un moment très fort. Aujourd'hui, Amanda Gorman est une véritable star aux États-Unis, mais elle était pas connue avant cette investiture. Et en fait, c'est Jill Biden qui l'a repérée parce que elle l'a vu réciter un poème dans la librairie du Congrès. Elle a été vraiment séduite par cette jeune femme, par sa diction et aussi par une robe jaune qu'elle portait ce jour-là. D'ailleurs, Gorman portait un manteau jaune lors de l'investiture. Et donc, c'est Jill Biden qui l'a repérée puis qui l'a invitée à cette investiture.
Et c'est un choix qui n'a rien d'anodin. Hein, le jour où, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, une femme noire entre à la Maison Blanche.
Et d'ailleurs, Anne, en venant ici en voiture, j'étais sur Massachusetts Avenue, donc devant la résidence de la vice-présidente, et il y a des résidents du quartier qui ont installé des petites affiches au sol pour souhaiter la bienvenue à Kamala Harris dans sa nouvelle demeure.
On l'a dit et répété, mais l'arrivée de Kamala Harris en tant que vice-présidente est vraiment historique. Il y a beaucoup de premières, la première femme vice-présidente, la première femme noire et la première femme d'origine sud-asiatique qui accède à ce poste. Et vraiment, à Washington, il y avait beaucoup d'enthousiasme. J'ai rencontré notamment une jeune femme qui était très heureuse parce qu'elle m'a dit qu'elle avait étudié à la même université que Kamala Harris, l'université Howard, qui est l'université des élites noires américaines à Washington. Et surtout, elle faisait partie de la même sororité que Kamala Harris. Ce sont, vous savez, ces clubs pour socialiser qui sont très importants dans les universités américaines.
She's from the same sorority that I am a part of.
Voilà, elle me dit, elle fait partie de la même sororité que moi, nous sommes sœurs de sororité, je suis si honorée, c'est un immense plaisir de voir quelqu'un qui me ressemble à ce poste, je suis si heureuse, je n'aurais manqué ça pour rien au monde, rien n'aurait pu m'empêcher d'être là aujourd'hui. Et je note que Kamala Harris portait un manteau violet qui a été très remarqué parce qu'il est signé d'un designer, Christophe John Rogers, qui est un homme noir et queer de 27 ans, et donc vraiment c'était une manière pour Kamala Harris de délivrer un message et de célébrer la diversité.
Bon, au-delà du symbole, il y a quand même des attentes très concrètes de la communauté noire.
Oui, le quotidien des Afro-Américains aux États-Unis qui ne va pas changer évidemment du jour au lendemain.
To me, it says that at least over a third of the country is still racist.
Pour Jerry, si on regarde par exemple la base électorale de Trump ou ce qui s'est passé au Capitole, il me dit qu'il y a au moins, selon lui, un tiers du pays qui est encore raciste et aucun président ne pourra changer ça, quel qu'il soit. Jerry qui vit à Washington et qui se dit en fait encore inquiet pour sa sécurité en tant qu'Afro-Américain, un sentiment qui ne changera pas avec une présidence Biden.
Bon, n'empêche que dans son discours, Joe Biden a parlé d'espoir, d'optimisme, d'ambition. Il a salué la solidité de la Constitution.
This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope.
C'est le jour de l'Amérique, c'est le jour de la démocratie, un jour d'histoire et d'espoir, a-t-il entamé, avant de revenir longuement et comme attendu sur la nécessité d'unir le pays. Vous pensez qu'il est possible d'unir ce pays tellement divisé, déchiré même ?
Il faut quand même rappeler que au moment où il est sur les marches du Capitole en train de prêter serment, on n'est que 2 semaines seulement après l'intrusion d'émeutiers à l'intérieur de ce bâtiment. 2 semaines seulement après.
Non seulement à l'intérieur, Grégory, mais je me souviens d'avoir vu également des émeutiers sur la scène même qui était en train d'être installée en préparation pour l'événement sur laquelle Joe Biden a donc prêté serment cette semaine.
Et c'est pour ça que Biden dit « la démocratie a fini par l'emporter ». Parce qu'il y a 2 semaines dans l'épisode précédent de Washington D.C., souvenez-vous, on se demandait si effectivement la démocratie allait tenir face à ces attaques.
Et puis il a surtout cette phrase « il faut mettre fin à la guerre non civile ». Alors c'est vrai qu'on a vu aussi sur cette scène plusieurs élus républicains. Biden est bien connu pour avoir négocié pendant des dizaines d'années avec les républicains. Il sait parler à l'autre camp. Alors je pense que ça va être très difficile d'unir cette Amérique si divisée. Mais il va pouvoir, je pense, au moins apaiser les tensions, les divisions. Et c'est ce que me disait l'élu afro-américain Jim Clyburn qui était derrière Joe Biden lors de son investiture. Ils se connaissent très bien. Finalement, pour lui, Joe Biden est un peu l'homme de la situation. Voilà, il me dit, c'est l'homme qu'il faut au bon moment.
N'empêche, Joe Biden fait face à d'immenses défis. Il y a d'abord, évidemment, cette question de besoin d'unité et des divisions. Mais il y a aussi un problème imminent pour lui, gérer la pandémie de COVID-19, de coronavirus, qui a déjà fait plus de 400 000 victimes aux États-Unis. Joe Biden a promis 100 millions de doses pour ses 100 premiers jours au pouvoir, mais on sait que les réserves ne sont pas illimitées. Et il y a des proches de M. Biden qui ont dénoncé une situation chaotique dans le plan que leur a laissé l'administration précédente.
À tel point, Raphaël, que les Américains, évidemment, savent très bien qu'il n'y aura pas de miracle. Certes, il y a une nouvelle administration, mais ce n'est pas d'un coup de baguette magique que cette situation va s'arranger. Puis, vous savez, parfois en reportage, vous croisez quelqu'un un peu par hasard qui, en quelques secondes seulement, arrive à vous raconter l'Amérique d'aujourd'hui. C'est l'exemple de Shahida que j'ai rencontrée à Wilmington dans le Delaware. Écoutez ce qu'elle dit.
I expect him to help people get jobs. I got laid off twice this year. It wasn't fun.
Et en quelques secondes, c'est vraiment un condensé de l'Amérique d'aujourd'hui. J'espère qu'il va trouver du boulot aux gens. Moi, j'ai été licencié 2 fois cette année. Ça a été très douloureux. Je suis même resté bloqué à Las Vegas pendant plusieurs mois parce que je n'avais pas assez d'argent pour rentrer chez moi. Toute ma famille a eu le Covid.
I'm ready for a change. Not a magic.
Il faut que ça change. Non, il n'y aura pas un coup de baguette magique, mais au moins, peut-être que Biden aura une attitude positive.
Oui, c'est vrai, il y a énormément d'attentes sur cette présidence Biden, mais au vu du contexte, la pandémie, l'économie, les tensions sociales, en fait, on a l'impression que Biden ne peut que décevoir.
Et au soir de l'investiture, notre envoyé spécial Stéphanie Schuller a rencontré tout près de la Black Lives Matter Plaza, Adam, qui déjà ne croit pas vraiment à ce message d'unité.
There'll be unity when we absolutely crush white supremacy and racism.
Adon qui dit, il y aura de l'unité quand on aura écrasé les suprémacistes blancs et les racistes. Il n'est pas d'accord avec Biden si le président Biden dit simplement qu'il faut être uni. Adon, lui, il veut un président qui prend des sanctions avec des gens qui doivent aussi aller en prison.
There needs to be charges.
Nous sommes toujours dans le jardin de la maison de RFI à Washington DC.
Et on entend d'ailleurs les oiseaux dans ton jardin, Anne.
Et même si la majorité des Américains, c'est-à-dire celle qui a élu Joe Biden, est vraiment soulagée de le voir arriver à la Maison Blanche, le 46e président américain, on l'a entendu, ne risque pas de bénéficier d'un état de grâce. Les urgences sont telles qu'il n'y a pas cette vague d'enthousiasme qu'on a vu par exemple lors de l'élection de Barack Obama en 2008. Il y a même une forme de gravité. D'ailleurs, le président s'est tout de suite mis au travail quelques minutes après être entré à la Maison Blanche. Il a convoqué les caméras dans le bureau ovale. Moi, j'ai eu l'impression qu'il n'avait pas encore eu le temps de changer les rideaux dorés qu'avait fait poser Donald Trump.
Il y a quand même des différences importantes que l'on peut remarquer. Quelques détails dans ce nouveau bureau ovale, et c'est assez symbolique. Par exemple, face à Joe Biden, il y a un portrait de Franklin Delano Roosevelt, FDR, le président, évidemment, qui a traversé la crise dans les années 30. Et il y a aussi un portrait de Benjamin Franklin qui a été installé sur l'un des murs du bureau pour illustrer l'importance qu'entend accorder le 46e président à la science pendant son mandat.
Bon, et sur le fond, hein, Sonia, il a pris des décrets dès sa première journée.
Oui, on a senti un Joe Biden ultra pressé de se mettre au travail, et notamment pour détricoter des mesures prises par Trump, il a signé une quinzaine de décrets.
The first order I'm going to be signing here is relates to COVID.
Et pour que vous rendiez compte à quel point c'est énorme, cette quinzaine de décrets, Obama, Bush, Trump et Clinton, combinés, ont signé 4 décrets lors de leur première journée à la Maison-Blanche. Et donc, parmi les priorités de Biden, la pandémie, le climat ou encore l'immigration.
This is the first one I'm signing.
Et puis volonté aussi d'aller rapidement au Congrès. On a vu la prestation de serment de ces deux nouveaux sénateurs démocrates de Géorgie. Je vous rappelle leur nom, John Ossoff et Raphaël Warnock, qui ont prêté serment devant Kamala Harris. Mmh. Et puis volonté aussi d'accélérer la production de textes législatifs avec, dès hier, l'envoi d'un premier texte de loi sur l'immigration.
Et au premier jour, il y a eu aussi ce premier point de presse à la Maison-Blanche.
Ouais, une certaine idée du briefing avec la presse, le retour de cette salle de presse délaissée par Trump. Elle prenait la poussière. Jen Psaki, c'est la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche, a promis le retour de la vérité et de la transparence dans cette petite salle de presse.
Good evening, everyone. Thank you for joining us on this historic day. It's an honor to be here with all of you. When the president asked me to serve in this role, we talked about the importance of bringing truth and transparency back to the briefing room.
Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais le Washington Post, le New York Times, Politico, à peu près tous les médias américains ont salué un vrai changement de ton, une ambiance, disons, un peu plus pacifiée avec les journalistes, pas d'attaque frontale, en tout cas, pas pour le moment. Alors, c'est peut-être pas forcément une bonne idée et une bonne chose pour nous, les journalistes. Ça veut dire que la communication sera peut-être aussi mieux maîtrisée, mieux organisée. Une Maison Blanche un peu moins chaotique, ça veut peut-être aussi dire moins de fuites, hein.
Et M. Biden commence aussi le travail à l'international avec une première conversation avec un dirigeant étranger vendredi.
Avec qui?
Ah, c'est pas avec Emmanuel Macron, c'est pas avec le président de la Confédération helvétique, ce sera avec Justin Trudeau,
le
premier ministre du Canada, le voisin. Obama, en 2008, avait fait son premier voyage au Canada, donc la relation, elle est assez symbolique. Ce sera peut-être pas pour annoncer des bonnes nouvelles à l'ouest du Canada, par exemple, parce que dans les décrets qui ont été signés, Joe Biden a annulé le permis présidentiel pour un oléoduc qui devait transporter du pétrole canadien vers le Texas.
Bon, il faut aussi parler un peu des républicains, hein. À la veille de l'investiture, Mitch McConnell a clairement déclaré que Donald Trump avait, par ses mensonges, été à l'origine de l'assaut du Capitole. Il a, semble-t-il, définitivement rompu avec le président sortant. D'ailleurs, même les plus fidèles soutiens de Donald Trump étaient à l'investiture de Biden, notamment le sénateur Ted Cruz ou encore le représentant Jim Jordan. Biden se rassembleur, ça fonctionnera peut-être au Congrès, mais c'est pas gagné pour le peuple.
C'est vrai qu'à Washington, on a en tout cas vu l'élite républicaine et démocrate afficher une certaine unité, mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la base républicaine, de cette base fidèle à Donald Trump? J'ai croisé Cathy à Washington.
It's really distressing, and right now I'm kind of down on the future of our democracy.
Cathy, qui m'expliquait que c'est inquiétant pour le futur d'une démocratie quand les sondages vous montrent que près de 80% des républicains qui ont voté pour Trump croient toujours qu'il y a eu, d'une manière ou d'une autre, de la fraude. Ça veut dire qu'une partie importante de la population ne croit plus dans les élections. Et comment on fait pour survivre en tant que démocratie quand les gens ne croient plus vraiment aux élections ?
Ce qui nous amène au président sortant lui-même. Donald Trump est parti en Floride, mais on n'a pas fini d'entendre parler de lui.
Non, parce qu'avant de se rendre à sa résidence de Mar-a-Lago, il a participé à une petite cérémonie d'adieu à la base Andrews, au cours de laquelle il a promis ceci à ses partisans.
So just a goodbye. We love you. We will be back in some form.
Ce n'est qu'un au revoir. Je vais revenir sous une forme. Quelle est cette forme? Comment Donald Trump se fera-t-il entendre politiquement? Certainement pas sur son compte Twitter, évidemment, qui a été suspendu, mais on n'a probablement pas fini d'entendre parler du 45e président des États-Unis.
Oui, et d'ailleurs, selon le Wall Street Journal, eh bien, Donald Trump aurait l'intention de créer un nouveau parti politique. C'est ce qu'il a confié à des proches, un parti qui s'appellerait le Parti Patriote. Alors, on sait qu'en Floride, certains conseillers de la Maison-Blanche le suivent. Il y a notamment son gendre, Jared Kushner, qui va s'installer à Miami avec donc sa femme et la fille de Trump, Ivanka Trump. Et donc, des consultations pourraient peut-être commencer à propos de ce parti dans les prochains jours ou les prochaines semaines.
Un parti politique ou un média, un autre scénario envisagé, création d'un groupe de médias conservateurs qui serait différent de Fox News, OAN ou Newsmax.
En tout cas, des patriotes, hein, des partisans de Donald Trump. Notre correspondant Eric DeSalve en a rencontré justement en Floride ce mercredi. Il faisait partie du comité d'accueil du président.
They think like they got Trump out, then it's over for us. It's not. Trump started something that's grown. It's a MAGA movement. You know, he started Make America Great Again, and that movement's huge.
Et donc, ce sympathisant trumpiste dit les gens pensent que Trump est parti et que c'est fini pour nous. Mais non, Trump a commencé quelque chose qui ne fait que grandir. C'est le mouvement MAGA, Make America Great Again, et ce mouvement est gigantesque.
Bon, et puis il y a toujours ce risque posé par ces milices armées d'extrême droite. J'ai interrogé un expert, Colin Clark, il est directeur politique du groupe Soufan qui fait du conseil en matière de sécurité intérieure et il prévient, ce n'est pas parce que l'investiture s'est déroulée sans incident que ces miliciens en ont terminé avec la violence.
Trump's violent rhetoric is laying the groundwork for not just weeks or months, but years of potential political violence.
Donc, Colin Clark, qui dit que la rhétorique violente de Trump, à son avis, a jeté les bases des violences politiques, pas seulement pour des semaines ou des mois. Et selon lui, on entre dans l'âge d'or de l'extrémisme aux États-Unis.
Et tout l'enjeu sera de savoir que deviendra cette base fidèle des partisans de Trump. Est-ce qu'ils basculeront dans l'extrême droite ou est-ce que les républicains arriveront d'une manière ou d'une autre à les récupérer?
Bon, pour terminer sur une note plus légère, on ne pouvait pas ne pas parler de quelque chose de crucial, d'essentiel. En tout cas pour toi, Grégory, la présence lors de cette soirée festive et virtuelle au soir de l'investiture donc d'un chanteur américain...
Du New Jersey, je crois.
Ouais, hein. C'est ça.
Il était là. Il était là.
Il est passé chez toi.
Mais de qui parle-t-on?
Springsteen a ouvert effectivement ce concert inaugural le soir. Alors sans spectateurs, évidemment. Hein, c'était uniquement à la télévision. Mais on a vu le boss sur les marches du Lincoln Memorial, seul avec sa guitare, face au Washington Monument.
Grab your ticket and your suitcase. Thunder's rolling down this track. You don't know where you're going now, but you know you won't be back.
À la fin de cette soirée, il y a eu des feux d'artifice assez extraordinaires sur le Washington Monument et toute la capitale a pu en profiter.
Et les 25 000 soldats déployés à Washington, c'était aussi pour protéger Bruce Springsteen de son fan absolu Grégory Philips.
Oh, meet me in a land of hope and dreams.
Voilà, et c'est sur cette note folk qu'on termine ce 33e épisode de Washington DC. Vous pouvez bien sûr nous suivre, nous interroger sur notre fil Twitter. Alors, on pensait arrêter ce podcast après l'investiture historique de Joe Biden, mais on a décidé de continuer au moins jusqu'à la fin du procès en destitution de Donald Trump et plus tard, qui sait, le scénariste de cet incroyable feuilleton américain nous réserve peut-être encore des surprises. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Washington DC avec
Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse,
Sonia Dridi, RTBF,
Grégory Philips, France Info,
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada,
Anne Corpet, RFI.
Réalisé par
Mathieu Balmer.